Rayon Libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et cette émission, elle n'est pas en direct. Et cette semaine, on va photographier les cyclistes. Vous êtes sur Cause Commune, vous êtes dans Rayon Libre. Salut à toi, peu importe comment tu nous écoutes, sur la FM parisienne, sur le DAB+, en streaming, via l'appli Cause Commune, en direct, en différé, peu importe ton mode de consommation de Rayon Libre. Merci de nous écouter et bonjour. Mais avant de causer et de photographier les cyclistes, on va poser un autre regard. Depuis 10 jours, mon vélo est remisé. Je suis privé de vélo. 10 jours que mes journées sont gâchées, vous dites-vous. Eh ben non, pas du tout. Je m'étonne moi-même. Depuis 10 jours, je me déplace dans Paris à pied, beaucoup, en scooter un peu et en métro très souvent. C'est dans le métro que je me suis dit que l'on devrait tous et toutes s'imposer de temps en temps de changer de mode de déplacement, ne pas attendre d'y être contraint comme moi, là. Je me dis aussi que cet exercice de changer son mode de déplacement n'a de l'intérêt que si on s'impose de laisser son écran dans sa poche. Pour ne pas être dans sa bulle, mais plutôt observer celle des autres, changer de mode de déplacement, j'y vois plein de vertus, entre autres, aborder son environnement avec un autre rythme, circuler en intégrant d'autres contraintes, celles imposées par les plans de circulation, celles imposées par les autres usagers, celles que l'on s'impose parce qu'on croit qu'on est pressé. On éprouve ainsi physiquement le « mets-toi à ma place ». D'ailleurs, « mets-toi à ma place », c'est une proposition que l'on entend souvent de la part des militants des vélos, du vélo. Les automobilistes, quand ils passent leur permis, devraient avoir un moment obligatoire sur un vélo, qu'ils réalisent ce que c'est. On n'entend pas souvent les automobilistes réclamer la même chose de la part des cyclistes. En ville, pourtant, ce serait intéressant. Oui, la cyclosphère pourra me rétorquer que ces automobilistes ont fait le choix d'être en voiture et donc qu'ils doivent assumer. Est-ce que la vérité n'est pas un peu plus nuancée? Se glisser dans le métro sans regarder son téléphone, c'est aussi, je pense, hyper intéressant. Déambuler à n'importe quelle heure de la journée dans ces couloirs, se demander, et si je ne pouvais pas marcher, comment je ferais dans ces couloirs? Se demander si partir de chez toi 5 minutes plus tôt ou plus tard changerait l'expérience avec plus ou moins de monde dans la rame. Marcher aussi dans la ville, c'est tenter de compter les vélos, épaves et ventouses. Je ne sais pas compter jusqu'à 1000, donc j'ai échoué. À pied comme à vélo, je ne veux pas chercher le chemin le plus court, mais le plus agréable. Chercher ce trajet le plus agréable, écouter, regarder, observer. Tout ça pour poser un autre regard, un regard un peu plus éclairé, parce que l'expérience de l'autre est éprouvée. Poser un regard éclairé et capturé, c'est le métier de mon invité. Sa vie est de rester à l'ombre pour jouer avec la lumière de l'autre. Il est photographe, accrédité souvent sur les événements cyclistes ou sportifs. Il pose aussi son œil sur la ville, ses habitants, sa nature, son architecture. Certains tendent un micro, d'autres posent un objectif. Comment Thomas Maheu travaille? Comment est-il devenu professionnel? Vous, auditeurs, auditrices, avez peut-être envie de lui demander, selon lui, qu'est-ce qui fait une bonne photo? Eh ben, je vais vous décevoir. La réponse ne m'intéresse pas beaucoup parce qu'une bonne photo, selon moi, elle existe parce qu'il y en a eu d'autres avant, d'autres après, un contexte, une œuvre, on pourrait dire. Thomas vient de remporter le concours de photos du magazine suisse Cycle Magazine, édité par Rossolis. Et si vous ne connaissez pas cette proposition, je vous invite à vous y plonger. Un lien vers le compte Insta de Thomas est à retrouver sur la page de l'émission sur notre site. Idem pour Cycle Mag. Bonjour Thomas Maheu, merci beaucoup d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour, bonjour à tous et merci à vous de m'accueillir.
Eh ben c'est un plaisir. La première question que j'aimerais vous poser, Thomas, c'est quoi votre méthode à vous pour réussir à poser un regard différent sur votre environnement?
Ouah, ça c'est compliqué.
Alors moi j'ai changé de mode de transport.
D'accord. Je pense que ce que vous avez dit au début de marcher déjà, par exemple, c'est vraiment une bonne façon de poser un regard différent, ouais. de regarder ce qui se passe autour de nous. Je crois que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup d'ailleurs. S'il y a bien quelque chose chez moi qui anime ce que je fais, c'est la curiosité. Ouais. Et si je peux en revenir à ce mode de transport, je pense que marcher et aussi faire du vélo, c'est un bon moyen de changer sa vision des choses des fois.
Ouais. Et alors comment vous faites aussi pour vous renouveler? Parce que photographier un cycliste, il n'y a rien qui ressemble plus à un cycliste qu'un autre cycliste.
C'est une bonne question et j'en reviens à ma curiosité, ouais. C'est que donc ça va faire 10 ans que je fais ce métier là et en fait j'essaye pas de copier ce que les autres font, mais je m'inspire, je regarde ce qui se fait et je vois comment moi je peux changer ma façon de voir les choses aussi, ouais. Et aussi, surtout j'essaye de faire d'autres choses en fait, et je crois que ça c'est le plus important. Il y a eu une période où je faisais beaucoup de photos de cyclisme, ouais. Et il y a un moment je me suis dit il faut que je fasse autre chose parce qu'en fait sinon je vais faire toujours la même chose et je vais un peu me perdre dans le métier, ouais. Et donc pour moi avoir fait d'autres sports, ça c'est ce qui amène aussi un œil. Donc encore une fois on revient à la curiosité, c'est voir de nouvelles choses pour pour se permettre d'évoluer.
Mais alors justement, c'est important, là, vous le dites, vous le dites, aujourd'hui, je monte photographe, c'est mon métier, aujourd'hui, donc on est clair, vous vivez de ce métier-là, de faire des photos.
C'est ça, c'est mon métier, on est en 2026, donc ça va faire, c'est la 11e année où je suis à mon compte. Après, sur ces 11 années, il y a eu 2-3 années qui ont été un peu compliquées. Hein,
le Covid.
Alors non, j'étais déjà bien installé à ce moment du Covid, mais deux ou trois premières années où j'ai débuté, j'avais encore du mal à dire que c'était mon métier vraiment et que j'en vivais pleinement.
Mais aujourd'hui, c'est intéressant là, ce que vous dites, c'est que en gros, c'est long pour vous faire un nom, c'est long pour signer, enfin pour être reconnu dans l'univers, c'est quoi ?
C'est long, c'est un mix de plein de choses en fait. C'est ça qui est intéressant. On me demande souvent comment j'ai fait pour en arriver là. Bah, c'est une bonne question et je pourrais pas vous donner une réponse parce que c'est juste des rencontres, des photos, enfin c'est des choses qui s'empilent au fur et à mesure et qui permettent d'en vivre, mais j'ai pas de recette magique. Hein. J'aimerais bien pouvoir dire à quelqu'un, un jeune qui me demande comment devenir photographe, bah fais des photos en fait et
travaille-les.
C'est exactement ce que j'ai fait, moi, parce que c'était pas du tout à la base. Enfin, j'avais pas prévu d'être photographe dans ma vie. Ouais. J'avais pas prévu grand chose, on va dire. et c'est arrivé très tard grâce au vélo. Et c'est juste faire des photos, se montrer, enfin montrer son œil. Et évidemment, enfin, je vais me jeter une fleur en me disant, du coup, c'est que mon travail est beau et ça aide aussi. Ouais. C'est pas juste faire des photos pour faire des photos, ça se passe pas comme ça. Mais c'est ça, c'est juste travailler et donner. Enfin, moi, j'ai vraiment donné beaucoup, beaucoup pour en arriver là.
Ouais. Et alors justement, vous dites vous n'avez pas prévu grand chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait une formation d'art graphique ou de photographe ?
Pas du tout. Non, parce que la photo c'est vraiment arrivé très tard. J'étais au lycée, fin de lycée quand j'ai commencé à faire des photos. Je faisais du vélo en fait et je sais pas pourquoi j'allais voir le Tour de France tous les étés. Enfin, à aucun moment je prenais des photos. Et puis un jour je me suis mis à prendre des photos. Et j'ai bien aimé ça et j'ai commencé petit à petit. En gros, j'ai fini mes études, j'ai eu mon bac, j'ai fait un BTS, donc rien à voir hein, dans la vente. Ouais. C'était vraiment des études.
Mais ça vous sert aujourd'hui pour vous vendre, non ? Ce BTS ou pas ?
Alors pas pour... Ouais, un peu pour me vendre, mais surtout dans la gestion d'une société, tout ça, ça m'a beaucoup aidé au début. Mais après, c'était vraiment des études un peu... je savais pas quoi faire de ma vie. Du coup, j'ai fait ce bac pro et... Au passage, ça n'a rien à voir, mais je conseille fortement les filières professionnelles aux personnes qui peuvent nous écouter parce que ça m'a quand même bien aidé dans la vie derrière. Ça n'a rien à voir, mais je me suis lancé après, en fait. J'ai fini mes études pour avoir ce bagage, être sûr, parce que c'est pas un métier facile, photographe. Enfin, on est indépendant et on sait jamais de quoi demain est fait.
Par exemple, vous cotisez à la Maison des Artistes ?
Non, moi j'ai fait une société normale. Oui. Je suis pas en artiste.
Ok. Et donc donc vous avez une société où dans laquelle il y a une personne, c'est vous.
C'est ça. Et c'est tout. Et c'est moi qui gère tout.
Ouais. Et alors comment ben c'est intéressant parce que vous dites aussi pour ceux ou celui ou celle qui a envie de devenir photographe à son compte ou pour une agence de presse, peu importe. Il y a un moment donné, il faut aussi savoir se poser derrière des chiffres et calculer et dire bah là est-ce que c'est rentable ou c'est pas rentable. Enfin j'imagine qu'au début il y a cette question qui vient tout le temps. C'est est-ce que je fais ces photos parce que le sujet est intéressant et puis ça va me donner de la visibilité ou est-ce que non je les fais pas parce que derrière ça me rapporte rien.
C'est beaucoup de questions qui sont compliquées. Je pense qu'au début on a juste envie c'est de travailler et de gagner de l'argent et on fait beaucoup on prend ce qu'on peut prendre. Après moi j'en suis à ma 11e année et il y a un moment où on se pose la question de savoir est-ce que ce qu'on prend en photo c'est quelque chose qu'on aime vraiment, il y a beaucoup de questions qui rentrent et il y a toujours ce conflit, enfin en tout cas moi je l'ai toujours ce conflit après autant d'années de se dire. Et encore plus maintenant, c'est est-ce que ça a un sens ce que je fais ? Est-ce que je prends en photo ce que j'aime ? Enfin, c'est beaucoup de questions, mais il faut aussi manger à la fin du mois. Enfin, quand on est indépendant, c'est plein de questions qu'on se pose, quoi.
Et ce qui est parfait, c'est quand c'est aligné entre ce que vous aimez faire et ce que attendent vos clients.
C'est ça. Ouais. Voilà, quand c'est comme ça, c'est le bonheur.
On est dans le monde idéal. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, être photographe dans le milieu, on va dire du vélo ou en tout cas dans le monde du sport, c'est compliqué ? Les places sont chères ?
Je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Les places sont chères, forcément. Hein, on peut pas avoir des centaines, des milliers de photographes. Après, avec les réseaux sociaux, enfin, moi, j'ai vraiment vu plein d'étapes sur la photo. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance, c'est que c'était un peu les réseaux sociaux arrivaient ouais. et c'est ce qui a permis de remettre le métier de photographe en route, je pense.
Donc, pour le dire, un Facebook ou Instagram, c'est un vrai levier, un vrai accélérateur.
Enfin, c'est aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à travailler. Enfin, nos photos, elles vont servir à Instagram principalement.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que quand
c'est pas un peu malheureux que vos photos que vous avez, j'en sais rien.
Si, des fois, je me fais la réflexion maintenant. Après, encore une fois, c'est que j'ai un recul là-dessus. C'est vu que j'ai pas du tout de, enfin, la photo, c'était pas quelque chose. J'ai pas fait des études et j'avais moins. Et j'ai toujours eu conscience de ça. C'est que j'ai pas eu au début cette sensibilité de photo d'artiste parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui arrivait très tard et mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui je me le dis et je le vois aussi dans ma façon de travailler, c'est que des fois en fait on travaille tellement, on fait tellement de choses qu'on regarde même plus nos photos, on livre nos photos, on s'enchaîne sur quelque chose d'autre et on perd un peu la dimension artistique, je pense. Et c'est cette année où j'essaye justement de retrouver ou en tout cas je prends vraiment conscience de la dimension artistique qu'on a dans notre travail, et c'est pas juste faire des photos pour prendre un casque en photo et que le sponsor soit content. Après, j'ai toujours eu cette démarche de raconter une histoire, mais je crois que là, j'essaie vraiment de la retrouver, en tout cas.
Mais c'est une question que je voulais aborder en deuxième partie d'émission, mais on peut le faire tout de suite. Ce que je dis en introduction, vous gagnez ce concours de photos pour Cycle Magazine. À quel moment vous dites, tiens, je vais candidater? Et puis surtout, comment vous choisissez la photo que vous avez envie d'envoyer et de mettre en avant? Parce que vous en avez des dizaines de milliers, des photos.
C'est très compliqué. Alors déjà, candidater, c'est... Pour le coup, je fais très peu de concours. Parce qu'au final, un concours, on est obligé de s'y inscrire. Donc en fait, oui, on va gagner un concours, mais si on s'y inscrit pas, on gagnera jamais. Et en fait, j'ai un peu de mal avec les concours. Je dois en faire deux. Il y en a un autre qui est où c'est Mark Gunter, où en gros c'est un photographe qui est décédé d'un cancer et du coup ils font un concours en hommage à cette personne. Donc là, je trouve ça a du sens. Et Cycle Magazine, c'est un magazine que j'aime beaucoup, qui, je trouve, dans le vélo est vraiment intéressant. Donc pareil, je me suis dit, j'y vais participer. Et le choix de la photo, comme vous dites, on a tellement de photos que c'est compliqué. Et en fait, moi, je fonctionne juste en... Je me pose et je me dis, quelle photo me vient en tête? Et c'est cette photo qui est venue en tête, donc c'est de ces deux petites filles à Oman. Et je me suis dit, j'y vais, parce que si elle me revient en tête, je sais que si ça me vient en tête d'un coup, c'est que c'est la photo qui va me toucher le plus.
Et c'est ça, au fait, vous allez choisir la photo qui vous touche le plus, et malgré tout, même si vous, comme vous dites, vous livrez les photos et vous enchaînez sur autre chose et vous prenez pas le temps de les regarder, malgré tout, à chaque fois sur une série, il y a au moins une photo où vous dites, celle-là, quand même, elle dit quelque chose.
Quand ça revient en tête, je me dis, c'est... Si ça revient naturellement comme ça, c'est que c'est un signe, en fait. Enfin, c'est que je fais pas un mauvais choix.
Ouais. Avant de lancer la pause musicale, quand même, pour les auditeurs, auditrices, parce qu'on est à la radio, moi, j'ai vu cette photo, ils la voient peut-être pas, alors on va leur donner envie d'aller la voir, cette photo, et d'acheter peut-être le Cycle Magazine le prochain. Est-ce que vous pouvez quand même décrire cette image en quelques mots?
Oui, en fait, c'est une photo qui a été prise pendant le Tour d'Oman, en 2024. Et ces deux petites filles, donc j'imagine deux sœurs, qui sont sur le bord de la route, qui se tiennent la main et qui regardent le peloton défiler. Et alors, ce que je trouve fort, c'est les deux regards. En fait, elles regardent chacune d'un côté, pas du même côté. Et j'aime beaucoup, en fait, avoir figé ce moment-là. J'ai le peloton qui passe en accéléré derrière. Donc, c'est...
En flou, ouais.
Ouais, je trouve que c'est un beau moment de ces deux petites filles qui... Et surtout, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette course. J'aime beaucoup aller à Oman pour faire cette course et pour ce pays, en tout cas.
Ouais.
Et du coup, c'est...
On va peut-être avoir une petite pensée pour eux, d'ailleurs, aujourd'hui.
Oui. J'imagine que ça doit pas être facile. Et surtout que c'est un pays qui est plutôt neutre là-bas, c'est vraiment un pays intéressant. Je divague un peu, mais c'est vraiment un beau pays, et j'ai fait plusieurs fois cette course, et de plus en plus de monde allait sur le bord des routes, et c'est vraiment pour ça que je crois qu'elle me touche, cette photo, c'est de montrer que les gens, c'est pas juste faire des courses de vélo là-bas pour faire des courses. Oman, il y a vraiment quelque chose, et les personnes viennent sur le bord de la route et ces deux petites filles, je trouve.
Oui. Et alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette photo, c'est que le sujet, vous y allez pour le Tour d'Oman, mais le sujet principal, les cyclistes, ils passent en filigrane derrière. Le sujet, c'est ces deux petites filles qui effectivement se donnent la main et regardent pas du tout dans la même direction.
Je trouve c'est un moment posé dans un moment un peu brut, parce qu'un peloton qui passe, c'est quand même quelque chose d'un peu, entre guillemets, violent dans l'action, on va dire. Et ces deux regards de petites filles,
le peloton passe d'une manière un peu furtive. On va se faire la pause musicale. Vous êtes avec Thomas Maheu, chers ceux qui nous écoutaient. On va s'écouter This is the Place de Joshua IDN. On se retrouve pour la deuxième partie de Rayon Libre. Oui, vous êtes au bon endroit, Rayon Libre, This is the Place, les frérots.
Of life. What do you think it is?
I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
This is the place.
The rhythm and the love.
This is the place.
The rhythm and the love.
Where I pick my pieces
and the
up.
And the love.
Not every house
and
is holy.
And the love.
But this room here
and
is holy to me.
And the love, and the rhythm,
where I bubble, where I dance.
Connected to something deeper.
And the rhythm.
I'm not alone in this room. And we
love.
Dance.
Love. Love. And the rhythm.
Where we bubble.
Everyone's a bit broken here. Every day can't be about me. If I must live this life, I must be alive in it. In it. All of us together in this sacred place. As the strobe lights above us, lay their palms upon us.
Rayon Libre, première diffusion le lundi 6 avril, le lundi de Pâques, avec Thomas Maheu, photographe professionnel. Il travaille beaucoup, mais pas que, dans le cyclisme. C'était This is the Place. Est-ce que vous vous dites, vous, Thomas, quand vous cherchez votre spot, la place où vous placez pour capturer vos sujets, là, j'ai un poste top pour faire mes photos?
Alors c'est un travail en amont déjà, d'essayer de repérer des endroits qui peuvent être intéressants. Après, ça dépend aussi des façons de travailler. Par exemple, si je travaille avec une équipe, souvent on est en voiture, on fait des coupes, et donc en amont c'est plus facile, on est un peu plus restreint, donc on sait déjà où on veut aller.
Ouais.
Après, des fois, je travaille pour des organisations. Là, on est en moto dans la course. Donc là, ça peut dépendre de beaucoup de choses. On a nos spots où on se dit, OK, c'est là qu'on veut aller. Mais c'est aussi intéressant de se garder une petite, un peu de suspense, on va dire. Et,
faire confiance au moment.
C'est ça. Parce que d'avoir ces spots, c'est bien. Mais du coup, des fois, on est juste fixé sur ces spots et on regarde pas forcément ce qui se passe autour de nous.
Ouais.
Alors qu'il peut y se passer un moment. Bah, par exemple, je reviens à la photo du concours. C'était pas prévu, spot était pas prévu, et ça donc des fois c'est aussi important de toujours regarder ce qui se passe autour de nous, enfin en tout cas quand on est en moto, pour s'adapter à la situation et trouver le spot, notre spot qui va faire la photo.
En fait, vous êtes presque un photographe animalier à l'affût, quoi.
Ouais, c'est ça, faut toujours être un peu à l'affût. En tout cas, quand on est en moto, je me débarrasse vite, je fais mes photos, je remonte sur la moto et j'essaie de vite trier ce que j'ai à faire, d'envoyer des fois des photos en live et de le faire rapidement pour justement toujours regarder ce qui se passe autour de nous et essayer de trouver quelque chose d'un peu différent.
C'est pas le moment de poster sur les réseaux, quoi.
C'est ça.
j'ai l'intuition, ou même plutôt une sorte de conviction personnelle, tellement je suis nul, moi, pour prendre des photos, que photographier un vélo, c'est compliqué. Comment en dessiner un, d'ailleurs, c'est un peu capturer du vide, non, un vélo?
Ouais, Ouais, il n'y a pas que le vélo. Il y a le vélo, mais il y a surtout la personne dessus.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup... Bah là, on parlait des paysages, par exemple, de trouver le spot. Mais moi, j'ai souvent dit, je pourrais faire le départ et l'arrivée d'une course et je serais le plus heureux parce que le vélo, donc il y a le vélo, ça c'est sûr. Mais il y a la personne qui est dessus, il y a ses émotions, il y a plein de choses à faire ressentir. Et ouais, c'est vraiment, moi, je pourrais être heureux à faire que des départs et des arrivées, surtout des arrivées pour les émotions qu'il y a.
Ouais, pour la souffrance, pour le plaisir,
le soulagement, la victoire, la tristesse. Enfin, c'est plein de choses qui sont vraiment... Ouais, qui sont très belles à immortaliser. Donc, c'est plein de choses différentes.
On a beaucoup parlé de l'œil, entre guillemets, l'œil artistique, mais votre matériel, vous avez appris comment? Et il y a quand même beaucoup de techniques aussi, malgré tout. Vous continuez à apprendre, vous n'avez pas fait de formation de photographe.
Oui.
Malgré tout, à un moment donné, il faut quand même apprendre à prendre une photo.
Ouais,
et à gérer la lumière et la vitesse.
J'en reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure quand on me pose la question comment être photographe. Là, pareil, pour tout ce qui est matériel, je suis pas une référence. C'est que moi, je prenais mon boîtier, je tournais les boutons, je voyais ce que ça faisait. Et puis voilà, en fait, j'adaptais à ce qui se passait avec les boutons.
Empirique.
Et, c'est enfin vraiment... Moi, il y a plein de gens qui parlaient technique et tout, et même encore aujourd'hui, moi, je suis là, je tourne le bouton à droite, ça fait ça, je tourne à gauche, ça fait ça, et je suis vraiment pas une bonne référence, et c'est pas que je veux pas aider les gens, hein, c'est que moi, en fait, j'ai tellement appris sur le tas, et que, je suis un peu brut là-dessus.
Mais c'est bien aussi. On parlait au début, c'est ce que vous dites, hein, vous dites, moi, au départ, en fait, j'allais voir le Tour de France, c'était quoi? Vous y alliez voir le Tour de France avec vos parents? C'est vos parents qui vous ont initié au goût du vélo?
Oui, mon père était cycliste quand il était plus jeune, à son niveau, pas à un niveau professionnel. Mais du coup, le vélo a toujours fait partie de ma vie un peu. Et tous les étés, j'allais chez mes grands-parents et on allait voir le Tour de France parce qu'ils habitent en Isère. Du coup, on était toujours pas loin d'une étape. Au bout d'un moment, ça allait passer à au moins une heure et demie chez eux. Donc, tous les ans, on allait au moins voir une fois le Tour de France. J'habitais pas loin avec mes parents du départ de Paris-Roubaix.
Oui, dans l'Oise.
Donc Paris-Roubaix, c'est vraiment ma course favorite.
Ouais.
Et du coup, j'habitais à 30 minutes de Compiègne du départ. Donc c'est pareil, ça a rythmé un peu la vie quand j'étais plus jeune.
Et aujourd'hui, le vélo, vous avez encore le temps de pédaler soit au quotidien, soit pour faire du sport, soit pour sortir, soit pour être avec les copains. Il est encore dans votre quotidien, ou presque, ou pas du tout?
Alors, pas du tout. J'avais, du coup, après quelques années, je m'étais racheté un vélo.
Ouais.
Et je l'ai mis de côté parce que, en fait, travailler dans le vélo, refaire du vélo et tout, ça m'avait un peu, je commençais à plus prendre de plaisir.
Saturé.
Mais là, je crois que j'ai encore envie de retourner sur un vélo, mais plus avec une envie de voyage, de long voyage, de découvrir. Parce que c'est quand même magique le vélo, jusqu'où ça peut nous emmener.
Eh ben, on sait pas, justement.
C'est ça.
Ouais. Donc, j'avais ici au micro Sofiane Sely il y a quelques mois et qui disait, je suis monté sur un vélo pour voir où était ma limite, et puis il la cherche encore. Justement, puisqu'on parle de voyage, quand vous photographiez une étape du tour, un peloton en gravel, un trail en course à pied ou un perchiste comme on peut le voir sur votre compte Instagram Arnaud Duplantiste ou encore la Formule 1, qu'est-ce qu'il y a en commun dans l'exercice de la prise de photo de tous ces sujets-là?
Oh, c'est une bonne question.
Ça fait deux bonnes questions, je suis content.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est plus la performance sportive en elle-même. Après, en commun, c'est compliqué de trouver des choses en commun. C'est marrant parce que quand j'ai commencé à faire de la Formule 1, des fois, je faisais mes réglages et tout comme si je prenais un cycliste qui passait.
Quand 50 km/h.
Quand je voulais faire un filet et je me suis dit, Thomas, t'es un peu bête, là, ça va beaucoup plus vite que...
Faut tourner plus le bouton à gauche.
C'est ça. Et du coup, c'est quelques petites choses à revoir. Mais après, encore une fois, moi, comme je m'intéresse beaucoup au côté humain et à l'humain dans mes photos, je retrouve un peu je garde mon œil là-dessus, en fait, sur les à côté, sur montrer des trucs, des choses qu'on voit pas forcément. Et donc, c'est plus garder mon œil et l'amener sur tous les différents sports.
Ça vous est arrivé d'avoir une commande, justement, sur de la Formule 1 ou sur un autre sujet et de sortir une série et il y a rien d'exploitable parce que vous êtes passé à côté? Au début, peut-être.
Ouais, j'ai sûrement déjà eu des moments comme ça où des fois c'est aussi un manque d'information où on sait pas vraiment. Enfin,
mais justement, ça c'est intéressant. Parce que vous êtes briefé malgré tout aujourd'hui.
Oui, on est briefé, mais des fois il y a des briefs où on est briefé sans être vraiment briefé.
Ouais.
Donc après, j'ai souvent eu la chance d'avoir des clients où on prend pour ce que je fais et du coup de pouvoir juste faire ce que j'ai envie.
Ouais.
Et moi, je fais beaucoup de reportages, je fais très peu de shooting pur, par exemple, ouais. du commercial, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui m'anime. Je reviens toujours aux mêmes choses, c'est que j'aime les moments vrais, les moments humains où... Ouais, j'aime pas tout ce qui est faux. J'en fais un peu, hein, des shootings, et c'est vrai que c'est quand même très agréable de pouvoir dire à la personne, bah, refais ce que tu viens de faire, je me suis loupé. Et... Mais j'aime bien cette petite adrénaline de faire quelque chose où ça va se passer une fois et tu pourras pas demander. Et des fois, je pourrais demander et je fais non, je veux pas demander à la personne de refaire quelque chose. Je demanderai jamais à un sportif de lever les bras parce qu'il a gagné. Je veux juste photographier ce qui se passe et laisser les choses se faire. Donc, c'est vrai que je suis un peu spécialisé là-dessus. Donc, des fois, il peut manquer des choses et c'est plus des trucs où, quand on va me dire que ça manque, je fais ouais, bah, par exemple, fallait prendre, je sais pas, les sponsors sur le côté et je vais être là, ouais, bah, je sais pas, mais ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent parce que des fois, il y a tellement de sponsors que c'est compliqué, mais c'est pas la partie la plus excitante. J'espère que mes clients vont pas m'écouter, mais.
Mais si, parce que c'est aussi une façon de. Ce qui est important, c'est l'histoire que vous allez, raconter, non ?
Oui, exactement. J'ai fait l'éco-trail à Paris. Le week-end, il y a deux week-ends là, et j'ai vraiment fait ce que je voulais. Ouais. Alors j'avais ces petites commandes de sponsors, mais j'ai fait que les arrivées et j'ai pris un vrai plaisir. Et je me suis un peu retrouvé dans cette journée parce que j'ai vraiment fait ce que je voulais. Je prenais le temps de faire ce que j'avais envie et c'était vraiment cool. Et c'est des moments qui font du bien quand on est photographe.
Faire du bien, ça va être le sujet d'Abel Guggenheim aussi. Abel, c'est notre photographe à nous, attitré. Il photographie la place du vélo à Paris et ailleurs. Il la raconte ici au micro. C'est le moment d'Abel Guggenheim. On t'écoute, Abel.
Bonjour. Je vous parlais la semaine dernière du déplacement groupé à vélo d'Emmanuel Grégoire et de ses supporters, juste après l'annonce de sa victoire à l'élection municipale parisienne. Plus exactement, je commentais l'énorme écho médiatique de ce déplacement. Cet écho a d'ailleurs continué à s'exprimer, tant dans le camp d'Emmanuel Grégoire que dans celui de ses adversaires. Plusieurs articles détaillent l'organisation de ce déplacement, un peu comme si le fait d'avoir préparé l'itinéraire, réservé quelques vélib, pris contact avec la préfecture de police, relevait d'un véritable complot dévoilé par de courageux journalistes enquêteurs. Dans un article paru dans l'Express, la philosophe Julia de Funès utilise une tactique critique classique, évoquer des qualités prétendues pour mieux les nier. Le vélo incarnerait une forme d'égalité, il donnerait à voir un élu ramené au niveau commun, il suggérerait que gouverner consiste à être un individu parmi d'autres, il installerait une impression de normalité. Elle explique alors qu'à son avis c'est faux et démagogique, que gouverner suppose une dissymétrie, puis détaille l'égalitarisme que met en scène le vélo entre donc en contradiction avec la verticalité structurelle propre à tout pouvoir qui doit arbitrer puis trancher pour le plus grand nombre. Le paradoxe est frappant. Le responsable politique à vélo veut apparaître comme tout le monde précisément au moment où il ne l'est plus en devenant élu. Il est cependant vrai qu'à l'inverse, sur Internet, un certain nombre d'influenceurs vélo alimentent effectivement une image mystique, quasi religieuse du vélo. Objet magique qui, par sa seule présence, apaiserait la ville, la rendrait avenante et quasi égalitaire, niant par exemple les difficultés avérées de la cohabitation entre cyclistes et piétons à Paris, ne voulant pas voir que la transformation rapide de la physionomie et de l'organisation générale de nombreuses rues ne s'assimile pas si rapidement qu'on pourrait le souhaiter. Mais c'est Emmanuel Grégoire lui-même qui remet la balle au centre dans un entretien très intéressant, et pas seulement du point de vue du vélo ni même des déplacements, dans le Nouvel Observateur. La question lui est posée directement. Après votre victoire, vous avez choisi d'arriver à Vélib à l'Hôtel de Ville, au risque de renforcer l'image des bobos à vélo à Paris ? Il répond « Ce n'est pas bobo, c'est la vie de tous les jours. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de critiquer quelqu'un qui habite en province et prend sa voiture. Ce n'est pas donneur de leçons. Le vélo est simplement devenu une mobilité du quotidien à Paris, à la fois banale, propre et pratique dans une ville comme la nôtre. Je le prends dans un déplacement sur trois, les deux autres étant en métro. » Mais le plus important est évidemment qu'en plus d'en être ainsi un pratiquant régulier sans préjugés, il démontre sa parfaite connaissance du sujet, capable, par exemple dans une interview à France Info, de parler aussi bien des aspects tant réglementaires que de sécurité, de la mise en place des contresens cyclables à Paris et ailleurs, que de l'historique des aménagements cyclables à Paris, et qu'il le fasse en n'omettant pas d'aborder le problème des incivilités des cyclistes. À lundi prochain.
Merci, c'était Abel Guggenheim. Thomas Maheu, une dernière question. Il y a quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous aimeriez vraiment faire?
Non.
Non.
Non, parce que mon objectif, c'était de faire Paris-Roubaix pour un magazine, et c'est arrivé très vite, donc voilà.
Voilà, vous pouvez repartir en paix.
C'est ça.
Prendre votre retraite sur votre vélo. Merci beaucoup, auditeurs, auditrices. Ça y est, ce Rayon Libre est terminé. Restez évidemment sur 93.1 FM. On est sur Cause Commune, il est 14h30 si vous écoutez la première diffusion. N'oubliez pas, le vélo est une chance. Je pense que ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. En souriant, on sait jamais si Thomas est par là. Faites-moi penser à rentrer le ventre d'ailleurs. Merci Thomas Maheu pour votre présence et je vous dis à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.